Voilà notre passage principal de ce jour. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est comme si l'apôtre Pierre oppose convoitises charnel, convoitise de ce monde, au fait qu'on soit voyageur. C'est comme si quand on est voyageur, on est étranger, on a moins de convoitise que lorsqu'on est un homme ou une femme du pays. Et c'est vrai, lorsque nous allons en tourisme dans un pays, on ne pense pas quand même acheter une maison là-bas. Donc on est de passage. On fait ce qu'il faut pour rester, bien sûr, dans le programme élaboré pour nous faire faire le tourisme. Et on ne veut surtout pas louper l'avion du retour. C'est ça le tourisme. C'est ça le fait d'être voyageur. Et avant d'aborder plus longuement ce thème, je voudrais dire que dans la vie, il faut des moments où on fait des mises au point. Mises au point, des bilans, c'est-à-dire un moment où tu t'assois et tu te poses des questions sur toi-même, sur ce qui est autour de toi, sur ton avenir, sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux pas aussi. Sur Dieu, sur ta mission, sur ton existence, il y a des moments où il faut faire des mises au point. Et ce sont les gens qui font les mises au point qui avancent avec Dieu. Ceux qui ne font pas des mises au point, ils sont distraits, entraînés. C'est pourquoi l'apôtre parle de entraîner dans les vents des doctrines. Ceux qui ne font pas des pauses pour méditer, réfléchir sur eux-mêmes, sur ce qu'ils font, sur le groupe dans lequel ils sont, sur Dieu, ils ne font pas des mises au point, ils ne font pas des pauses pour méditer là-dessus. Ce sont des gens qui sont tout le temps entraînés dans des vents, dans des modes, dans des prisons aussi, sans se rendre compte. C'est très important. Vous savez, il y a un prophète qui a fait la mise au point, quoi. Il s'agit de Jonas. On l'a demandé d'aller prêcher à Ninive, de déclarer que Ninive sera détruite. Il a fait sa petite mise au point. Bon, si je veux prêcher là-bas, moi je veux vraiment que ça soit détruit. Mais si ces gens-là se repentent, tel que je connais mon Dieu, il risque de leur pardonner et de ne pas détruire. Voilà, donc ma prophétie sera considérée comme zéro. J'ai échoué. Et deuxièmement, ces étrangers-là, ces païens, vont être sauvés. Non. Il a fait sa petite mise au point. Il a dit, je ne partirai pas. Je m'enfuis. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, vaut mieux être froid ou bouillant. Mais tiède, Dieu n'en veut pas. Et la Bible dit que quand tu es tiède, Dieu te vomit. Il faut au moins prendre une position. Même si c'est une position contraire à celle de Dieu, mais tu es franc. Tu as fait ton petit calcul. Tu dis, bon, si je vais prêcher là-bas, voilà ce qui va se passer. Eh bien, moi, je refuse. Mais comme c'était quelqu'un qui était quand même un amoureux de Dieu, Dieu a tout fait pour le ramener sur la bonne voie. Mais il avait fait sa mise au point avant. Nous aussi, nous devons faire notre mise au point. On fait notre mise au point, on dit, mais non. Tel que je vois les propositions d'argent qu'on me fait à gauche, propositions de logement, propositions de ceci ou cela, Seigneur, sans blague, il faut vraiment que tu aies beaucoup de convictions pour me décourager d'aller dans cette voie-là. Dieu est au courant que lui, il a besoin de beaucoup de convictions pour que je l'empêche d'aller là. Il a beaucoup besoin d'une aide puissante de ma part. Qu'est-ce que Dieu fait? Il répond. Mais si on fait semblant, alors qu'on est tenté d'aller dans la mauvaise voie de l'argent et d'autres choses, parce que les propositions sont tellement grandes. Mais on fait semblant comme si ce n'était rien du tout, et on veut, comment dire, épater Dieu, dire à Dieu, ben je te suivrai moi, mais ces histoires-là, ça ne me dit rien. Alors que ça te dit quelque chose dans ton cœur. Mais c'est parce que tu ne veux pas faire une mise au point, voir vraiment la réalité de ton cœur. Il y en a qui fuient la réalité de leur cœur, comme certains fuient le miroir. Il sait que s'il va se regarder dans le miroir, aïe, j'ai encore grossi, aïe, 3 boutons sur le visage. Alors, il évite le miroir, bien aimé. Non, avec Dieu, il faut pas éviter le miroir. Au contraire, tu viens devant le miroir, tu dis, bon, Seigneur, mais voici, nous en sommes à ce point-là. Le pasteur, mais c'est quelqu'un qui m'énerve. Mais je suis convaincu que c'est lui que je dois suivre. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, il faut être clair avec le Seigneur. Et le Seigneur va t'aider parce que tu as fait la mise au point. Bien-aimé, il faut faire la mise au point. Dis, Seigneur, je n'ai plus envie de prier. Je n'ai plus le goût. Faire accepter la réalité, c'est ça la mise au point. Tu t'arrêtes et tu exposes la réalité telle qu'elle est. Et tu demandes maintenant après l'aide du Seigneur. Les hypocrites cacheront toujours à eux-mêmes et croiront cacher à Dieu, mais on ne cache pas à Dieu. Et croiront cacher à Dieu la réalité. Ils feront jamais de mise au point et ne sauront jamais où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, qui est Dieu. Nous devons bien aimer savoir est-ce que on fonctionne correctement spirituellement. Est-ce que l'année passée, n'étions-nous pas meilleurs? Donc, il faut que de temps à autre, on fasse des mises au point, qu'on se pose la question, mais pourquoi prier aussi à tout moment? Bien-aimé, oui. Soyons honnêtes avec Dieu. Mais oui, mais pourquoi tout le temps prier? Après tout, tu connais les choses. Toi. Et puis, Dieu, à chaque fois, lorsqu'on est honnête, on fait la mise au point avec lui, il répond, il nous sort de ce problème. Il faut faire la mise au point, savoir pourquoi on est chrétien. C'est très important. Moi, je fais ces mises au point. Il y a des moments où il y a tellement de problèmes que, si tu es sincère, tu fais la mise au point. Mais pourquoi je suis chrétien? C'est quoi être un chrétien? Il faut faire cette mise au point. C'est comme ça que Dieu nous rappelle les vérités fondamentales qui nous permettent de vaincre le mal, de vaincre ce monde. C'est très, très important. Parce que si on ne fait pas ces mises au point, on est dans l'hypocrisie dans l'œuvre de Dieu. On est dans l'hypocrisie, dans sa marche avec Dieu. On veut faire croire à Dieu qu'on l'aime beaucoup. On veut faire croire à Dieu qu'on est en forme. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse croire des choses. Dieu a besoin seulement d'aider. Il ne cherche que des gens qui sont perdus, qui sont fatigués, des gens qui sont déstabilisés pour les remettre sur pied. Il ne cherche que ça. Mais ce qui nous manque, c'est qu'on ne fait pas ces mises au point. On se dit, ah, ici, je ne viens pas, on va pas me voir, on va m'appeler, on va s'inquiéter. Si. Donc, on est dans des si. Il faut faire des mises au point. Et dire, parler à Dieu, franchement. Faire des mises au point. Savoir, par exemple, est-ce que, Dieu est plus puissant que les forces des ténèbres, après tout. C'est des mises au point à faire, hein. 1 an, 2 ans, tu souffres, tu ne comprends pas, c'est comme si les satanistes paraissent plus puissants. Tu fais la mise au point. Mais après tout, est-ce que Dieu est-il plus puissant? Et le Seigneur va te répondre. Parce que tu es déstabilisé, tu es inquiété, tu fais une mise au point. Tu es honnête, tu es franc. Dieu cherche des gens qui font des mises au point, qui s'arrêtent pour dire qu'est-ce que je fais, dans quoi je suis. Voilà. Il veut, parce qu'il sait que en te posant des questions ainsi, ces réponses vont devenir des forces pour te propulser de l'avant, davantage encore vers lui. Parce que Dieu a la réponse à toute question, a la réponse à tout problème. Faire des mises au point, il y a des moments où on est tellement tracassé par la souffrance des autres, et on fait la mise au point. Mais finalement, pourquoi Jésus est mort? Et c'est là que Dieu va nous parler, nous expliquer vraiment la mort de Jésus et nous donner la force à partir de cette mort-là pour nous dire, c'était mon fils bien-aimé. Et si j'ai accepté qu'il souffre ainsi, parce que c'est certain que j'obtenais votre délivrance. Donc prenez courage. Et quand on entend de telles paroles, le moteur redémarre, on continue notre marche. On a besoin de faire des mises au point avec Dieu. Prendre un verset, dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà. Parce que, en réalité, tu doutes de ça, mais tu ne veux pas t'avouer ça. Alors, prends-le. Pose la question en face. Dis-le en face. Ne dis pas les choses en secret. Dis-le en face. Tu vas voir le pasteur, tu vas voir un bien-aimé sage. Tu dis, mais oui, mais ce passage-là, est-ce que c'est vraiment, on ne voit plus ça. Et on va recevoir la réponse. Dieu répond. Il est vivant. Il peut même permettre une circonstance, deux ou trois circonstances pour te répondre à ta question que tu lui as posée franchement. Je ne dis pas franchement, il faut seulement ouvrir la bouche. On peut le dire franchement, mais dans le cœur, mais qu'on ne se cache pas les choses. Qu'on dise clairement les choses au Seigneur. Il faut faire des mises au point. Pourquoi tu es chrétien? Est-ce que Dieu est vraiment Dieu, le Tout-Puissant? Et toutes ces mises au point, quand on les fait, ça nous positionne. Je sais, tiens, Dieu est mon Père. Quand tu fais cette mise au point-là, Dieu est mon Père, ça répond en même temps à tous tes problèmes. Ça répond à beaucoup de questions que tu te poses. Tu réalises, tiens, Dieu est mon Père. Mais j'avais oublié ça. Dieu est mon Père. Tu médites ça. Tu pries par rapport à cela. Et tu reçois la paix des dieux qui vient du ciel. Parfois, certains sont embêtés, mais ils ont oublié que Dieu était leur Père. C'est comme quelqu'un qui a du mal à trouver un logement, et soudain, il se rend compte mais que c'est son oncle qui est chef de cabinet du ministre des logements. Quand il se rend compte, oh, mais finalement, je me suis tourmenté pour rien. Et il y a des moments où tu te rends compte, tiens, oh, mais Dieu est mon Père. Mais pourquoi je me tracasse? Ben, je n'ai qu'à lui exposer les choses clairement et ça te fortifie, tu avances. C'est très important de faire des mises au point, de faire des bilans, de faire des pauses où on réfléchit à son avenir, on réfléchit à Dieu, qui est Dieu. On réfléchit à la parole, on réfléchit aux événements passés. C'est très très important de faire des pauses, des mises au point. Et à chaque fois dans ces mises au point, dans ces pauses, le Seigneur parle. Il agit. Il démontre qui il est. Moïse, quand on l'a envoyé, il a fait sa petite mise au point. Il a dit, mais je ne sais pas parler. Voilà. Je ne sais pas parler. Je veux parler comment? Dieu lui a dit, qui a créé la bouche? Qui a fabriqué la bouche? Eh bien, c'est celui qui a fabriqué la bouche qui t'envoie. Automatiquement, lui s'inquiétait de savoir comment il allait parler. Mais on lui a donné une réponse qui lui a donné beaucoup plus de puissance encore que par rapport au côté parler. Ça lui a donné une telle force. Mais tiens, mais après tout, c'est le Créateur qui m'envoie, mais j'avais oublié tout ça. Donc, non seulement ça a réglé sa question de parler, ça a réglé d'autres questions en même temps. Quand Dieu parle, oh, il agit. Et Éphésiens 3:20 dit, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, Vous pensez que Dieu agit au-delà de ce que nous pensons. C'est-à-dire que même ton imagination ne peut pas prouver ce que Dieu va faire. Pourtant, avec nos imaginations, on peut se construire beaucoup de choses, hein. Des châteaux en Espagne, des hélicoptères personnels où tu mets comme un sac à dos. On peut se fabriquer beaucoup de choses en imagination. Mais la Bible dit que même notre imagination ne peut pas sonder la capacité de Dieu. Tout ce que Dieu peut faire dans nos vies, il peut faire des choses extraordinaires. Mais il faut qu'on fasse ces mises au point pour savoir où allons-nous, qui sommes-nous, que faisons-nous, quelle procédure adopter dans nos vies chrétiennes par rapport à tel autre problème. Il nous faut faire ces mises au point-là. Et moi, aujourd'hui, la mise au point que je veux faire aujourd'hui, c'est 1 Pierre donc 2:11. Nous sommes de passage. C'est ça la mise au point. Ma mise au point, c'est qu'il faut savoir que nous sommes des voyageurs, des pèlerins. Nous sommes en voyage. Nous ne sommes pas dans notre destination. Aujourd'hui, bien aimé, le christianisme a été pollué par des prédications qui visent à pousser qui poussent plutôt les gens à vouloir amasser et à réussir sur la terre. Dieu ne nous demande pas cela. Dieu nous garantit la réussite sur la terre. Il nous dit que sur la terre, on est avec lui on n'échoue jamais. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Il nous garantit cela. Les prédications qui nous poussent à vouloir être parfaits ici sur terre, dans le sens avoir tout l'argent qu'il faut, avoir toutes les maisons qu'il faut, ce sont des prédications qui nous ramènent dans le monde. C'est le monde qui cherche cela. C'est le monde qui pousse les gens à être toujours jeunes ici sur terre, qui pousse les gens à être toujours beaux ici sur terre, qui pousse les gens à être toujours riches, parce que le monde n'a que la terre. À part la terre, le monde n'a rien. C'est normal que le monde focalise, mette son accent sur la terre, parce qu'il sait que quand on meurt, c'est fini. Les gens du monde, quand on meurt, c'est fini. C'est normal qu'ils mettent l'accent sur cela. Mais le problème, c'est qu'ils nous ont influencés, ils nous ont contaminés. Et on a perdu de vue le fait que nous étions de passage. Et que sur la terre, nous étions en train de construire notre éternité. Bien-aimés, c'est comme si on demandait à un maçon de venir en costume pour travailler. On dit, bon, pour mettre du ciment, bien poncer les murs, faire la peinture, ravalement, tout ça, eh bien, vous venez tous en costume, il faut être propre. Les gens vont dire, mais non, mais pourquoi être propre? Pourquoi se parfaire comme ça pour se salir avec du ciment après, se salir avec la peinture? Finissons la maison. Quand elle sera propre, le jour de l'inauguration, nous viendrons en costume. Il n'y a pas de problème. Finissons la maison. Quand la maison sera finie, eh bien, on pourra s'asseoir sur des fauteuils habillés en costume. Maintenant, le monde nous pousse à être en costume pendant qu'on fait la maçonnerie. C'est ça l'erreur. On veut te pousser, toi, à satisfaire les choses de la terre, alors que toi, tu es en préparation pour les choses du ciel. C'est pourquoi l'apôtre Pierre l'a dit. Nous allons relire 1 Pierre 2, 11. Donc, il le dit. Il oppose le fait qu'on soit voyageur et les convoitises de la terre. Il oppose les deux. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, attention, abstenez-vous des convoitises. Il n'a pas dit abstenez-vous des maisons ni de nourriture. Il dit abstenez-vous de la convoitise, c'est-à-dire de la logique selon laquelle c'est en possédant ces choses qu'on sera heureux. Voilà, c'est ça la convoitise. La logique qui te fait croire que c'est en possédant, c'est en ayant telle autre chose que tu seras dans le bonheur, tu seras heureux. C'est de la convoitise. Qu'en ayant une telle réponse à tel problème, c'est là que tu seras heureux. C'est de la convoitise, c'est faux. Nous sommes heureux par la vie qui nous est communiquée du ciel par notre Père. C'est ça qui fait notre bonheur. C'est le fait que nous soyons raccordés à lui. C'est ça qui fait la vie. C'est pourquoi Jésus disait toujours, je suis la vie. Jésus n'a jamais dit que ce sont les biens, ce sont les réussites sur terre, en ayant des enfants beaux, que c'est ça la vie. Non, la vie, c'est, il disait, je suis la vie. Si tu es connecté à moi, tu as la vie. La vie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie, c'est ça la vie. Et il disait que c'est lui qui l'était, cette vie-là. Ce bonheur, cette paix, c'était pas la réponse à nos questions. Et d'ailleurs, quand il nous a dit que jusqu'au maintenant vous avez pas demandé, demandez dans Jean 16, demandez afin que cela vous soit donné et ainsi votre joie sera parfaite. Pourquoi notre joie sera parfaite? Ce n'est pas parce que nous avons reçu l'exaucement, nous avons reçu par exemple la voiture qu'on attendait. Non, c'est le fait de voir la fidélité de Dieu en nous donnant ce qu'on a demandé. C'est ça qui fera notre joie, de réaliser que Dieu est fidèle. Nous avons un véritable Dieu. C'est ce qui fait notre joie. Ce n'est pas la chose qu'on obtient. C'est ce qui fait notre joie, c'est de réaliser la fidélité de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de choses qu'on a obtenues, quand on les a obtenues, on n'avait plus de joie. Parce qu'on avait beaucoup attendu parfois, et ainsi de suite. Ce n'est pas ces choses-là elles-mêmes qui donnent la joie, mais c'est de voir la fidélité de Dieu. Ah, Dieu m'a entendu, il m'a exaucé. Quelle joie! On est comme ailleurs. C'est ça, c'est la fidélité de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est la source de joie. Et l'apôtre Pierre dit, attention, vous êtes de passage. Bien-aimés, rappelons-nous cela. Nous sommes de passage. Nous sommes dans un train. Nous sommes dans un avion. Et dans un avion, on ne construit pas des maisons. Certains disent, ah, il prêche l'ascétisme, donc la vie dure. Non, c'est faux. Au contraire, je suis tellement convaincu que Dieu garantit les autres choses. D'ailleurs, lui-même, Jésus, en parle dans Matthieu 6, il dit ces choses-là que vous cherchez, c'est les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, il va pourvoir, comme il pourvoit pour les oiseaux, il va pourvoir aussi pour vous. Donc, comme il pourvoit pour les arbres, les feuilles, il va pourvoir. Donc, c'est clair, au contraire, je prêche que nous sommes tellement riches dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de souffrir encore pour ça. Nous devons plutôt souffrir pour obtenir des choses éternelles que ni cette terre, ni les anges, ni personne ne peut nous enlever. Au contraire, mettons-nous, engageons-nous, travaillons pour des choses qui subsistent à jamais. Et Jésus a dit cela. Il a dit, travaillez, ne travaillez pas pour ce que vous pour les choses de la terre que l'atteignent. Que la rouille peut toucher. Travaillez pour des choses éternelles. Et le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous avons commencé à travailler pour les choses d'ici-bas. Oui, c'est vrai que peut-être nous ne volons pas. C'est vrai que peut-être nous escroquons pas les gens. Oui, on s'engage pas peut-être dans des groupes mafieux. Mais on ne fait que prier. On ne fait que fonctionner pour les choses de la terre. On fonctionne. Pour obtenir tel mariage, on fonctionne pour obtenir telle chose, on fonctionne même dans les choses de Dieu, on fonctionne pour que notre église soit rayonnante, puissante. En fait, notre problème, c'est que la terre, sur la terre, nous soyons bien. C'est ça notre problème. Et c'est le fonctionnement du monde. Et le Seigneur veut que nous puissions nous concentrer sur le ciel. Bien, mais ça fait, il y a plusieurs points de mise au point. Aujourd'hui, j'ai fait la mise au point sur ça. Quelqu'un d'autre fera la mise au point sur autre chose. Mais ma mise au point, c'est sur ce problème-là. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui sont partis en Albanie. Quand les choses se sont ouvertes là-bas, on a autorisé les chrétiens à y aller. Ils sont partis là-bas et ils ont trouvé l'église presque inexistante. Et celle qui existait, elle était froide comme l'église d'Europe l'est, quoi. Et dans leur prière, ils disaient, Seigneur, nous voulons qu'ici en Albanie, ça soit chaud, il y ait de la ferveur. Eh bien, Dieu entend, et Dieu nous et Dieu va nous mettre devant la situation pour comprendre la réalité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu a fait de l'église de l'Albanie une église forte. Une église remplie de feu, remplie de ferveur. Conséquence, ambition de poste, ambition d'argent et toutes sortes de désordres que nous vivons déjà en Occident. Et aujourd'hui, ce serviteur de Dieu dit, je ne prie plus pour qu'il y ait le feu à l'église, je ne prie plus pour qu'il y ait de la ferveur, je ne prie plus pour que nous soyons rayonnants. Je prie pour qu'on soit fidèle à Dieu. Il dit, il faut qu'on regarde au ciel. C'est clair, bien-aimé, quelqu'un qui ne pense qu'au ciel sera rayonnant ici. On n'a pas besoin de chercher des choses qui, et de les considérer comme des objectifs. Donc, commencer à dire que il faut que notre église soit remplie de feu. Et rester là, c'est dangereux. Il faut que notre église soit remplie de feu pour qu'on s'attache beaucoup plus aux choses éternelles, pour qu'on s'attache beaucoup plus à Dieu, pour qu'on évangélise. Il faut que ce feu-là serve aux choses de l'éternité. Mais pas que ce feu-là soit comme une démonstration que notre église est bonne. Non, ça c'est le piège. Et c'est Satan qui a mis ce piège-là subtilement et les chrétiens sont tombés dans ce piège. Il y a des gens qui se battent, il y en a qui se battent, mais je veux prophétiser, je veux parler en langue. Si tu lui demandes, mais pourquoi? Pourquoi? Il va te dire, oui, mais ça a été promis. Oui, mais ça a été promis, bon. Ça a été promis aussi des souffrances. Je n'étais pas entendu prier pour les souffrances, là. N'est-ce pas que les souffrances sont promises dans la Bible? 2 Timothée 3:12, pour ceux qui doutent. Donc, tous ceux qui servent Jésus-Christ pieusement seront persécutés. Voilà. Ils vous amèneront dans les tribunaux. Mais je n'ai jamais entendu de l'intercession, Seigneur, envoie-nous dans les tribunaux, s'il te plaît. Dans quelle intercession, vous avez déjà entendu ça ici? Personne n'a intercédé comme ça. Seigneur, s'il te plaît, la prison, tu nous as promis. Qui a fait ça? Personne. Donc, on s'est fait piéger par le diable pour prier que pour des choses qui nous donnent de la valeur ici sur terre. Les choses qui nous donnent de la valeur ici, pour l'éternité, on s'en occupe pas. Bien aimé, quand je vois la crise de l'essence et comment les gens sont paniqués, dans une station, il y a une femme que je ne connais même pas, elle me dit, ça fait mal, hein? Moi, j'ai pas compris, mais qu'est-ce qui fait mal? Je cherchais qu'est-ce qui fait mal. Moi, je mettais mon essence, et lui aussi, elle aussi mettait. Ça fait mal, qu'est-ce que... Et puis, je fais comme, je ne comprends pas. Elle me dit, oui, le montant qu'on paye là. Moi, je dis, ah, d'accord. Et l'après-midi, je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, le Seigneur nous a exaucés. Enfin, il y a la crise en France, quoi. Ben oui, bien-aimé. On avait prié pour qu'il y ait la crise. Parce que sans la crise, le français n'allait pas se convertir. On a prié pour ça. Aujourd'hui, nous voyons l'exaucement. Il y a la crise. Il y a des gens qui déménagent parce que ils ont peur déjà de payer la facture du fuel l'année qui va suivre. C'est bien. C'est ce que nous, on voulait. Comme ça, quand on va parler de Dieu, ils vont plus rigoler. Donc, il faut tendre l'oreille. Peut-être que la solution se trouve là-bas, puisque ça a causé nos déçus. La solution se trouve peut-être dans la Bible. Ah oui, surtout que c'est gratos. Donc, ils vont rien dépenser. Donc là, ils vont commencer à tendre l'oreille. Les rigolades, ça va diminuer là, bientôt. Et là, ce n'est que le départ. Bien-aimés, nous devons comprendre notre rôle. Certains diront, mais c'est dur. Mais non, c'est pas dur pour les enfants de Dieu. Le royaume s'ébranle, les nations s'agitent, mais le peuple de Yahvé est toujours dans la paix. Voilà, toujours dans la paix. Le but de tout ça, c'est de sauver les gens. Parce que Dieu sait que cette terre sera détruite. C'est nous qui réfléchissons mal. Nous devons faire cette mise au point. Nous sommes de passage et la terre aussi est de passage. 1 Jean 2,15 à 16 le dit. Ce monde et sa convoitise passent. Ça passe. Vaut mieux les Français au ciel, heureux, plutôt que heureux ici sur terre et dans les difficultés au ciel. Nous préférons qu'ils soient heureux au maximum, en grand nombre, au ciel, bien-aimés. Nous sommes de passage. Nous sommes des voyageurs. Comportons-nous comme des voyageurs. Voyons les situations que nous vivons comme étant des investissements pour notre destination. C'est des investissements. Il y a des choses que nous vivons qui sont inexplicables. Mais nous sommes des investissements. Il y a des gens qui ont prié pour nous, qui se sont donnés pour que nous on écoute l'évangile. Mais nous on avait refusé. Mais aujourd'hui on a accepté. Ces gens-là, peut-être ils savent pas, mais ils ont contribué à ce que nous soyons là. Ne cherchons pas à saisir comme les païens les choses pour être satisfaits dans nos cœurs. Ah, j'ai produit telle chose. Ah, j'ai produit ceci, cela. Non. Faisons ce que la Bible dit, soyons fidèles, sachant que ça se produit automatiquement puisque Dieu est fidèle. Tout ce que nous faisons, pour lui, ça va se produire qu'on le veuille ou pas. J'avais cité l'exemple de toute cette génération, trois générations plutôt d'une famille anglaise qui s'était établie en Algérie. Elle a prié, travaillé, le grand-père était pasteur, travaillé, prié pour que l'Algérie se lève en Christ, rien. Le papa est venu travailler, prier, rien. La fille est venue travailler, prier, rien. Mais au moment où on vous parle, où je vous parle, eh bien, l'Algérie devient l'une des zones du christianisme qui bouge terriblement. Mais bien aimé, mais ces gens-là qui sont morts là, qui ont investi, mais le résultat est là. Mais ils n'ont pas vu ça pendant qu'ils faisaient. Mais ils se sont pas relâchés. Trois générations travaillaient. Donc ça veut dire qu'ils se sont pas relâchés. Ils ont travaillé sachant que ils verront leur récompense au ciel. La Bible dit que les œuvres des saints les suivront au ciel. Nos œuvres nous suivront au ciel. Nous devons travailler en comme des voyageurs, comme des passagers, en sachant que notre récompense est céleste. On nous a désappris cela, on nous a plutôt appris que nous devions voir ici. Nous devions, les gens disent, je veux voir de mon vivant des miracles, mes bien-aimés. On n'a pas besoin de faire des serments comme ça. De mon vivant, je dois voir tel miracle, de mon vivant. Non, bien-aimés, tu le verras si tu y crois. Et si ça sert aux causes éternelles. Mais si ça sert seulement que tu te sentes un bon chrétien, ça sert à rien. Si ça sert seulement que tu te sentes un bon pasteur, ça sert à rien. Mais si c'est pour servir à des causes éternelles, si c'est pour un investissement céleste, ben tu vas aller vivre tout cela. Et d'ailleurs, ceux qui ont vécu ça ne savaient même pas. Ils ne savaient même pas que ça viendrait. Quand l'ombre de Pierre a guéri les malades, Pierre n'était pas au courant. Lui, il passait et son ombre guérissait les malades. Il n'a pas dit, Seigneur, je veux que mon ombre guérisse les malades. Non. Ils ont dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, ils ont fait cette prière. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons que tu agisses puissamment. Et qu'au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ, des miracles s'opèrent, des prodiges, afin que les gens sachent que c'est Jésus qui est ton serviteur. C'est toujours pour une cause éternelle. Ce n'est pas pour que eux, ils se sentent qu'ils sont des bons chrétiens, des bons apôtres. Mais il fallait que les gens reconnaissent que Jésus est Dieu. Comment fonctionnes-tu? Tu fonctionnes pour le Seigneur ou tu fonctionnes pour toi? Il y a des endroits où je pars, on me dit, mais pasteur, tu t'es déplacé seulement pour 4 personnes. 900 kilomètres. Moi, je dis, mais je me suis déplacé parce que Dieu m'a donné l'ordre de me déplacer. Je ne me déplace pas parce qu'il y a 1000 ou 500. Je me déplace pour glorifier Dieu. Je sais que là où Dieu me demande de le glorifier, je sais qu'il va faire des grandes actions. Même si moi, je ne vois pas aujourd'hui, mais je ne fonctionne pas selon un schéma humain, je fonctionne selon un schéma écrit dans la Bible, comme quoi celui qui sème, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récoltera. Je viens semer l'adoration dans ce lieu, même si vous n'êtes qu'à 4, mais je sais que Dieu, je me suis déplacé, j'ai fait 900 kilomètres, je sais que Dieu va accepter ce sacrifice-là comme un sacrifice de bonne odeur, et cet endroit sera béni. Un jour, quelqu'un a été envoyé dans une boîte de nuit, brutalement. Il est entré, peut-être il savait même pas que c'était une boîte de nuit, on lui a dit de prêcher dans ce local-là. Il entre, il prêche. On l'a autorisé par le DJ à dire quelque chose. Il a dit, il a prêché, il n'y a rien eu. Et je crois 2 ans après, il revient dans cet endroit-là. Cet endroit est devenu une église, bien aimé. Donc, mais lui n'a pas vu du résultat quand il travaillait. Il n'a pas vu. Mais il a obéi à la logique du royaume de Dieu. La logique du royaume de Dieu marche, c'est l'obéissance qui compte. Le Saint-Esprit dit, on obéit. Et puis, on doit être sûr que ça va se faire. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui ont découragé d'autres pasteurs en leur disant, mais pasteur, on ne va pas toujours vivre en espérant seulement, en espérant. Il faut qu'on voit quand même. Et c'est comme ça que beaucoup ont dévié. À force qu'on leur dise, mais il faut qu'on voit quand même, pasteur. Oui, mais il faut qu'on voit. Mais est-ce que nous-mêmes, on peut forcer la vision? Ce n'est pas nous qui faisons. Moi, je dirais, il faut qu'on croit. Celui qui vient me dire, il faut qu'on voit. Je dis, on a déjà vu, il y a le soleil. Maintenant, va douter maintenant que le soleil n'existe pas. Voilà. Bien aimé, va dire que le soleil n'existe pas. On a déjà vu. La Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire qu'elle a fait ses preuves. Donc, elle est éprouvée, elle est vérifiée, qu'elle est efficace. Elle a fait ses preuves. Quand on regarde les arbres, le soleil, elle a fait ses preuves. Nous, nous devons travailler justement avec assurance parce que cette parole a fait ses preuves. Marchons dans la logique de cette parole. Nous sommes des passagers. Il y a des choses qui vont nous arriver, disons-nous. De toute façon, on est des passages. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, je crois vers le verset 29, il a dit, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Maintenant que celui qui est marié vive comme s'il n'était pas marié. Voilà quoi. Parce que les temps sont difficiles. Vouloir s'accrocher à des choses qui sont de la terre, même si elles ne sont pas mauvaises en soi, mais s'y accrocher peut causer la perte de beaucoup spirituellement. C'est pourquoi il a dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a des choses sur lesquelles on va vouloir s'accrocher ici sur terre. Ça va faire la guerre à notre âme. On n'aura pas la paix. Or, le don le plus précieux que le Seigneur nous donne, le don le plus gratuit, puisqu'un don est déjà gratuit, mais j'ajoute encore, le plus gratuit que le Seigneur donne à un enfant de Dieu, c'est la paix. Lorsque quelque chose nous enlève la paix, posons-nous la question. Le pasteur qui te dit, mais pasteur, il faut quand même qu'on voit, il t'enlève la paix. Tu n'es plus bien, tu prêches, mais tu cherches à voir. Tu conseilles quelqu'un, tu cherches à voir. Tu n'es plus en paix, tu es perturbé. Et celui-là qui est là en train de cliquer, le chrétien qui cherche à cliquer sur Internet pour trouver quel est celui qui fait le plus de miracles, il n'est pas en paix, il n'est pas satisfait de Dieu qu'il trouve dans la Bible, il cherche autre chose. Celui qui t'enlève la paix, pose-toi la question, il est inspiré par qui? Dieu donne la paix. Et du moment que on est accroché au convoitise charnel, nous perdons la paix. Il n'y a plus la paix. Ah, mon ministère ne décolle pas. Mon ministère ne bouge pas. Ma famille. Alors que un vrai chrétien doit chercher quelle est la pensée de Dieu. Parce que il n'est qu'un investissement pour les choses du ciel. Nous sommes des investissements. Bien-aimés, la machine du royaume de Dieu est simple, mais elle peut devenir complexe pour les gens qui veulent la comparer à la machine, aux machines de ce monde. Elle est simple, c'est quoi? C'est que tu obéis, qui est écrit dans la parole, sache que ça s'accomplit. Maintenant, c'est vrai, tu ne vas pas toujours voir. C'est ça la simplicité. C'est-à-dire que tu peux être obéissant au moment où quelqu'un veut te dépasser à l'autoroute. Tu peux, alors que tu restes dans les normes, refuser qu'il te dépasse. Mais tu entends une voix qui te dit, laisse-le passer. Et tu fais ça. Toi, tu te dis, mais ça a apporté quoi? Ce type-là, c'était un fou, il fallait que je lui barre le chemin. Tu ne sais pas ce que ça a apporté. Ça, c'est pas ton problème. Notre problème, c'est qu'on veut voir le méchant être frappé de nos yeux. Quelqu'un qui te klaxonne, qui te fait un mauvais geste du doigt. Et en passant, tu as un petit rêve dans ton cœur, si à 100 mètres, il pouvait pas cogner quelque chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est l'homme qui veut tout voir, tout maîtriser. Nous, soyons heureux d'avoir souffert, de nous être tués, malgré cette injure-là, on se tait, on dit Seigneur, je le fais pour que ta gloire soit sur la terre. Je le fais pour que je sois un canal, pour que ton royaume se manifeste sur la terre. Je le fais afin que tu aies pitié de la personne qui m'a injurié. Bien-aimé, tu ne sais pas. Plus tard, c'est que cette personne-là va devenir grâce à ton sacrifice. Tu t'es laissé injurier, tu t'es laissé klaxonner sans réagir. Tu ne sais pas. Bien-aimé, faisons les choses parce que c'est écrit, non pas parce que nous voulons vivre des choses. Faisons les choses dans une logique d'investissement pour le ciel. Ne faisons pas les choses dans une logique terrestre. Cela va nous perdre. L'ennemi ne cherche que cela. Bien-aimé, je veux moi aussi qu'il y ait des miracles. Je veux qu'il y ait le feu, mais pas au détriment de la fidélité, ni au détriment de la vérité. Je veux plus la vérité. Je veux plus le ciel que les choses de ce monde. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, 1 à 3, affectionnez-vous des choses d'en haut. Marchez dans les principes des choses du ciel, parce que c'est là-bas que vous vivrez. Bien-aimé, imagine que tu partes en Chine. Ou bien que tu partes en Russie, en passant par l'Allemagne, en passant par la Bulgarie. Mais tu vas vivre en Russie. Et tu as 2 ans pour te préparer. Pendant ces 2 ans, tu vas te préparer à apprendre quelle langue? Le bulgare, l'allemand ou le russe? Mais tu vas apprendre le russe. Pourquoi? Parce qu'en Bulgarie, en Allemagne, tu ne seras que de passage. C'est en Russie que tu vas habiter. Nous, notre destination, c'est le ciel. Quelle langue nous allons apprendre ici sur la terre? C'est l'amour. Quelle langue nous allons apprendre ici sur la terre? C'est l'adoration. Nous devons apprendre des choses que nous allons vivre là où nous allons. Le reste n'est que de passage. Bien-aimés, c'est la vérité. Et tous ceux qui sortent de ce chemin-là sont perturbés. Leur âme n'est plus en paix. Ils vont faire 2 miracles, c'est pas suffisant, il faut 5. Ils vont avoir 2 maisons, c'est pas suffisant, il faut un château. Leur âme n'est plus en paix parce que les convoitises des choses de ce monde les ont bloquées. L'église va se remplir avec 1000 personnes. Ce n'est pas suffisant parce que son voisin en a 3000. Il faudrait 2000. Ils seront jamais en paix. Nous sommes des passagers, bien-aimés. Faisons les choses comme des passagers. Apprenons la langue des destinations. Apprenons ça. Apprenons l'adoration. Je veux clôturer avec ça. Ma mise au point, c'est que nous sommes de passage. Ne nous bloquons pas sur terre, même spirituellement, en nous disant, je veux être fort spirituellement. Mais tout simplement dans une logique de bien-être sur terre, c'est pas bon. C'est pas bon. Si on doit être fort, c'est pour qu'on nous utilise pour le ciel. C'est pour bien préparer le ciel. C'est préparer soi-même et préparer les autres. Et tout le reste nous est garanti. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste nous est garanti. Voyons les choses ainsi, bien-aimés. Et nous serons toujours heureux, toujours en paix. Et je vais donner une recommandation. Que chaque jour, nous puissions avoir beaucoup de temps de communion avec Dieu. Dans la prière, dans la lecture de sa parole, afin d'être toujours connecté au ciel. Pas pour venir prêcher avec puissance. Non. Ce que je vous prêche, ce n'est même pas ce que j'avais en tête comme prédication. On peut toujours préparer 1 mois, 3 semaines. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on soit parfait dans la prédication. Il veut seulement qu'on lui obéisse et qu'on dise ce qu'il veut qu'il dise. Qu'on dise quoi? C'est tout. On doit cultiver la logique de Dieu dans nos têtes. Que tout ce que je fais soit pour le ciel. Et non pas dans une logique d'applaudissement ou de reconnaissance ici sur terre. C'est ça qui a détruit beaucoup. Ils sont devenus très éloquents. Ils ont maintenant des techniques pour bouger des chaises en parlant. Tout ça pour avoir une bonne prédication. Un jour, j'ai entendu un pasteur conseiller un autre pasteur. Il dit, dans un culte, il faut comprendre les gens. Dans un culte, il faut qu'il y ait d'abord une bonne louange. Quand vous avez une bonne équipe de louanges, c'est bon pour un culte. Ensuite, un moment de prédication fort. Et puis, un moment de prophétie. Et puis, donc, il lui donnait un conseil pour avoir un culte. Un bon culte. Bien-aimé, c'est ça les convoitises charnelles. Quelqu'un dira, mais non, ça c'est spirituel. Non, c'est pas spirituel. Que du moment que c'est pour être accepté, excellent sur terre, c'est charnel. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on l'adore, qu'on s'offre à lui. Et c'est pourquoi les gens se sont construits des thermomètres. Ah, il y avait du feu aujourd'hui dans le culte. C'était chaud. Mais bien aimé, la question c'est, est-ce que toi tu as vraiment adoré Dieu? C'est plutôt ça la question. Savoir si c'était chaud ou pas. Et bien aimé, je peux vous dire que dans le concert de Johnny Hallyday, c'est chaud. Mais est-ce que c'est ça qui fait que c'est la vérité? Le concert de Bob Marley. Mais c'était chaud. Moi, j'ai regardé ça sur cassette, mais j'avais envie d'être plongé dans la télé, bien aimé. Puisqu'il était déjà mort, moi, j'étais encore petit. Mais nous voulons nous préparer pour le concert qui sera éternellement chaud et véritablement chaud. Ce concert, c'est au ciel. Ce n'est pas ici. Ici, tout est de passage. Viens avec un cœur simple. Servir ton Dieu. Fais la mise au point. Dire, ah, on est de passage. Suis-je prêt pour aller au ciel? Est-ce que je me prépare pour ça? Est-ce que je prépare l'église? Est-ce que je prépare les gens autour de moi? Est-ce que je fonctionne pour le ciel ou je fonctionne pour être accepté ici sur terre, applaudi même, entre guillemets, spirituellement? Quel est mon objectif? Chanter à la chorale pour être vu ou bien chanter parce que je veux louer l'Éternel? Si c'est pour louer l'Éternel, même dans ma salle de bain, il va m'entendre. C'est ça. Est-ce que je veux prêcher parce que j'ai des talents de prédicateur ou bien je veux prêcher pour sauver les gens? Si c'est pour des talents de prédicateur, ben, vaut mieux entrer dans les partis politiques. Tu peux être un bon orateur. Mais si c'est pour Dieu, il faut prêcher parce que Dieu te l'ordonne. Ouvre ta bouche, je vais parler. Voilà. Un point, c'est tout. Et le jour où il te dira, tais-toi, tu te tairas. Parce que tu sais que c'est Dieu qui touche les gens, ce n'est pas toi. Mais si tu crois que tu es fort, toi, le jour où Dieu te dira, tais-toi, tu te dis, mais si je me tais, qui va sauver les autres? Oh, mais tu vas entrer en conflit avec Dieu. Tu vas manquer de paix. Bien-aimé, construisons le ciel. Nous sommes de passage. C'est la vérité. Et si nous marchons dans cette logique-là, nous serons à l'abri de bien des convoitises, à l'abri de bien des tentations. Et les gens vont te dire, mais oui, mais quand même, tu as 17 ans, 18 ans, il faut profiter de la vie. Tu dis, acceptons ça que c'est un mauvais quart d'heure à passer. En tant que jeune, j'ai quelques mauvais quarts d'heure à passer en tant que jeune chrétien. Les moqueries, les choses que je ne peux pas faire, c'est un mauvais quart d'heure à passer. Passons tous bien aimés ces mauvais quarts d'heure. Donc, c'est vrai que les gens du monde ont une liberté de faire de mauvaises choses. Notre chair aussi a envie de faire ces choses-là. Alors faisons passer à notre chair ces mauvais quarts d'heure. Il finira par passer. C'est un quart d'heure, ça finit par passer. Voilà. Ces 50 ans-là, ces 60 ans, ces 70 ans qui nous séparent d'éternité finiront par passer, bien aimé. Ça finira par passer. Soyons réconfortés, quoi. Même si on est déçus de nos manquements ici sur terre, sachons que ça passera, quoi. Soyons fortifiés. Tenons bon. Comme le Seigneur dit à une église d'Apocalypse, garde ce que tu as, quoi. Retiens-le fermement. Accrochons-nous. Ne loupons pas le bus qui nous amène à destination. Restons accrochés au groupe de pèlerins. Restons accrochés au corps du Christ. Restons accrochés. Nous avons peut-être des mauvais quarts d'heure à passer, mais restons accrochés. Parce que ça va passer, effectivement. Ça va passer. Et nous aboutirons au ciel où nous serons heureux tout le temps. Personne ne nous dérangera plus. Il n'y aura plus de cris ni de douleurs. Mais ceux qui ne s'accrocheront pas à ce train-là connaîtront des difficultés majeures. Que Dieu nous préserve de tout cela et nous amène plutôt nous garde dans son train jusqu'au bout, même si la chair, notre chair, a des mauvais quarts d'heure à passer, acceptons-le et Dieu sera glorifié. Considérons-nous comme des investissements de Dieu pour le ciel. Amen. Merci Seigneur de nous aider à ces